Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, j'ai la joie d'accueillir à nouveau Xavier Vidal qui est venu de Cardaillac jusqu'au studio de Radio Présence Figeac pour continuer cette interview. Bonjour Xavier.
Bonjour Mathilde.
Et nous avons Armand qui reste ici, je pense, tout le temps.
Oui, bonjour Mathilde, bonjour Xavier.
Qui nous chauffe les micros pour quand on est prêt à enregistrer. On était resté la dernière fois sur la pédagogie de l'oral. Alors, parce que vous avez été prof pendant plusieurs millions d'années, je pense, au moins, Xavier. Enfin, vous avez eu beaucoup, beaucoup d'élèves, notamment à l'école musique de Figeac. C'est là que je vous ai rencontré en 1990. Et oui, c'est... je l'avoue, j'avoue. C'est l'année où Armand est né. Hein.
Non, je suis né en 91, loupé.
Ah, raté. Bon. Eh bien, nous faisions de la musique avant que vous soyez né, Armand. Et vous avez enseigné cette musique traditionnelle du Quercy tout en faisant un travail de collectage auprès des personnes qui connaissaient des chants et des musiques de façon orale. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus à nos auditeurs et auditrices comment se passe cette transmission orale ? Parce que c'est vrai que je crois qu'elle n'est pas si connue. On connaît surtout les partitions en musique.
Mais il faut savoir un truc, deux choses déjà. La première chose, c'est que 90% des musiciens dans le monde entier n'utilisent pas le solfège. Si on va dans les grandes traditions musicales, même très très complexes, je ne sais pas, si on va en Inde par exemple, pour faire de la musique classique de l'Inde, il faut minimum 10 ans d'études. Oui, c'est en général, c'est une quinzaine d'années avant d'être considéré. Il faut apprendre tous les rythmes, tous les modes mélodiques, toutes les mélodies, toutes les formes, les gammes, tout ça. Enfin, c'est très, très long. Et jamais ils n'utilisent aucun support écrit. Je ne sais pas, on peut prendre d'autres traditions aussi, même des traditions complexes. Voilà. Alors, c'est la particularité de la musique classique occidentale, d'avoir adopté le solfège. Donc voilà. Alors ça, évidemment, le fait que ça soit écrit, ça permet aussi de développer des choses incroyables, la polyphonie, l'écriture pour grands orchestres, voilà.
Et la transmission aussi. Ouais. Si on n'est pas sur place.
Voilà. Je suis assez admiratif, par exemple, on distribue les partitions, un ensemble instrumental, et le chef fait démarrer l'orchestre et ça peut jouer. Déjà, ça peut jouer. Donc, voilà. Mais, en même temps, des fois, les musiciens sont axés sur leur partition et si on leur enlève la partition, ils ne savent plus jouer aucune note. Et alors, donc, ça, on a dit, au bout d'un moment, on a dit, dans l'enseignement de la musique, ok, l'écrit, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui travaillent de manière orale, plus spontanée, mémoriser des mélodies et des rythmes comme ça, sur l'instant, reproduire le geste. Quelqu'un joue, la personne qui est en face reproduit.
Voilà. Il y a des limitations.
Et ça, et alors, il y a quelque chose d'important, c'est que, à partir de. Ouais, limitation, c'est ça. Limitation du geste et du son. Et à partir du moment où c'est comme ça, les gens peuvent se permettre aussi d'inventer par eux-mêmes, transformer un peu la mélodie, le rythme, l'accentuation, tout ça. Et ils peuvent créer leur propre version. Ça évolue, il y a une variation.
Voilà. Oui, de s'inspirer de plusieurs types de variations et puis d'en faire la sienne. Je pense que chaque musicien a fait ça. En tout cas, ouais. Moi, j'ai fait ça.
C'est pareil pour l'écrit. Je veux dire, un enfant, il apprend à parler avant de savoir écrire et lire. Donc, on peut supposer qu'à la musique, c'est pareil. On peut permettre à des gens qui... Il y en a, ils trouvent que le solfège est rébarbatif. Donc, c'est vrai que c'est un peu scolaire à la manière dont on va apprendre le solfège. Pas partout, mais souvent.
Ça a changé. Ça a beaucoup changé, oui.
Ouais, heureusement. Et donc, on peut, comme ça... Il y a plein de musiciens dans plein de styles qui n'utilisent pas de partition ou des fois, ils utilisent des formes particulières de l'écrit, par exemple. Je sais pas, par exemple, des grilles, des suites d'accords, des trucs comme ça. Mais pas forcément le solfège. Moi, je suis pour le solfège. Mais
oui, parce que vous savez écrire, ouais, et lire.
Mais en même temps, on a mené comme ça de transmettre oralement autre chose pour les enfants, qui pouvaient s'approprier les musiques plus immédiatement, être dans l'instrument, dans la pratique instrumentale plus rapidement, etc. Donc, ouais. Donc,
c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus collectif et ludique. Je dis toujours que je pense que si je vous avais pas eu comme professeur, j'aurais jamais fait de violon, parce qu'on m'a pas fait faire des gammes tout de suite. 2 ans de solfège avant de toucher à l'instrument, j'ai touché tout de suite à l'instrument et tout de suite on a appris un petit morceau qui était un morceau qui pouvait se danser d'ailleurs, et je pense que un mois après il y avait un bal avec d'autres musiciens et vous avez dit à vos élèves, eh bien non, venez, vous allez jouer aussi. Et on avait nos petits violons, notre petite musique, et puis on a pu jouer en collectif, et ça a vraiment motivé, ce qui m'a pas empêché après de travailler mes gammes, de demander, de le faire, d'apprendre à lire un petit peu. Ça pas du tout, mais au moins pour les débuts et avoir envie de continuer et de me dire que la musique était collective et agréable, j'avoue que ça a été une façon d'apprendre qui était très, très intéressante.
Oui, c'est un peu renverser la manière de faire. D'ailleurs, à la grande époque de la musique classique, si on prend par exemple Mozart, qui était un enfant prodige de la musique, son père le trimballait dans les cours d'Europe et tout ça, mais lui, à vrai dire, c'était à la base un grand improvisateur. Il improvisait, et finalement, à cette époque-là, ils écrivaient, ils jouaient, ils improvisaient, et quand ils trouvaient que leur musique était...
Celle-là, elle était bien.
Elle était bien, ils écrivaient. Ils écrivaient des motifs, et après, ils pouvaient se mettre à la table, et puis après, à partir de ces motifs qu'ils avaient improvisés, ils écrivaient. Mais Bach, pareil. Hein.
Il faut les deux, en fait. Il faut les deux. Et c'est vrai que j'ai trouvé... quand je me suis mise à aller à la musique écrite, je disais même avec Guillaume Schilling, on disait, j'ai l'impression que c'était pas le même lieu dans le cerveau, et que du coup, c'est bien de pouvoir entraîner les deux, parce que sinon, il y en a un qu'on n'a pas assez développé.
Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que dans l'enseignement, on va dire académique de la musique, on va au conservatoire, tout ça, on va être formé pour être ce qu'on appelle exécutant, c'est-à-dire pouvoir jouer dans un orchestre, jouer exactement la partition, s'intégrer à l'orchestre, et on ne nous demande jamais d'inventer par nous-mêmes, et de créer, de composer, d'inventer, et jamais d'improviser.
Non, c'est plutôt le jazz.
Ah oui, mais bon, l'improvisation, même dans le jazz, il y a un langage particulier du jazz pour improviser, mais il y a plein d'autres façons d'improviser. Et même l'improvisation libre, c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut, et on n'a pas on n'a pas à censurer les gens. Et c'est à partir de là qu'ils expriment quelque chose. Voilà, moi je suis pour l'improvisation libre.
D'accord. Et je sais que vous avez sorti un CD qui s'appelle Le Camino
des Biais.
Le Camino des Biais. Vous notez rarement, hein, parce que ce sera écrit dans le podcast. Voilà, il me fait oui. Et le premier morceau, d'ailleurs, c'est une improvisation.
C'est un essai. Ouais, c'est un essai d'improvisation. Oui, alors l'improvisation, ça ne marche pas à tous les coups. Mais parce qu'on invente sur le moment. Alors les gens, ça plaît pas. Mais en tout cas, ils ressortent toujours des idées. On peut le faire collectivement, tout seul. On a toujours défendu l'improvisation. Et tous les musiciens de tout style, de tout niveau, peuvent se mettre ensemble. On peut faire jouer un grand pianiste avec un petit enfant de 6 ans qui a 3 mois d'instruments, on pourrait concevoir qu'ils improvisent. Et voilà.
Mais il faut quand même donner quelques règles.
Non, on peut faire de l'improvisation avec des règles, mm-hmm. Mais on peut faire de l'improvisation libre. Si alors là, il faut une certaine ouverture d'esprit. Il faut
de l'oreille aussi. Il faut l'écoute.
Ah, mais ça permet de la développer énormément.
Et voilà, c'est ça. En fait, donc la règle, j'allais dire, c'est l'écoute. C'est pas mon truc tout seul et tant pis si l'autre.
Non, bien sûr.
Et l'autre suit.
Et puis bon, c'est sûr, après, quand on improvise comme ça, on s'en aperçoit. L'improvisation libre, déjà, il faut démarrer, mais il faut finir aussi.
Et ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous auriez un morceau, alors soit d'improvisation libre, soit de musique traditionnelle, quelque chose que vous auriez envie de nous jouer ou quelque chose de style ou quelque chose de vous.
Ouais, alors on va jouer. Alors au début, on va faire une improvisation libre.
Allez.
On va essayer.
Comme ça.
Et après, on jouera une bourrée.
Allez.
Ouais.
Réussi à commencer et à terminer. Et d'ailleurs, ouais. Là, en terminer sur quelque chose d'assez cadré, puisque c'est les fins de bourrée qu'on retrouve énormément. La signature qui peut se faire dans ce sens-là, dans l'autre, tata, yep, pointe aussi.
Chacun invente son final. Ça indique aux danseurs que c'est la fin. Parce que c'est une danse courte, la bourrée, c'est assez intensif.
Ah oui? J'en ai dansé des longues.
D'accord, Mathilde. C'est assez. Il faut y aller. C'est une danse sur le vif, quoi. Il faut vraiment être dedans.
C'est vrai. Alors cette bourrée trois temps, c'est une spéciale dédicace à ma maman d'ailleurs, qui est Marie-Odile Lacaze, qui avait cette émission il y a quelque temps. Elle aime beaucoup la danser. Est-ce que vous pouvez traduire les paroles? Et elle m'a dit qu'il y avait un double sens.
Calaurio di calaurio de lèbre o capelavolo perdigalou. Qui aurait dit que l'oreille de lièvre recouvrait le perdigalou, le petit perdreau?
Bon, il paraît qu'il y a un double sens là-dessous.
Ouais, c'est ça.
Armand.
Moi, je ne comprenais pas au début, puis les anciens se moquaient de moi, parce que je ne comprenais pas.
Et voilà. Bon, on vous expliquera hors antenne.
Non, mais les histoires d'oiseaux, hein, c'est en général, voilà, on sait que c'est à caractère un peu sexuel, quoi. Mais bon, on ne va pas traduire mot à mot parce qu'on laisse un petit doute.
Oui, auditrices et auditeurs, si vous trouvez, appelez Armand et dites-lui ce que vous avez trouvé.
Je suis ravi de l'entendre.
Au 05.
Mais vous connaissez le numéro par cœur,
ah non,
Mathilde.
Je ne m'en rappelle plus.
Oh, 05 65 348 348.
Voilà. Donc ça, c'est des bourrées, ce qu'on appelle traditionnel. Hein.
Ouais. C'est à la base, c'est chanté. Et puis, les mélodies sont reprises par les instruments. Souvent, quand l'instrument le reprend, c'est un peu plus complexifié au niveau... parce que... Calaurio... Calaurio di calaurio de l'ebre... On on détache plus, on découpe plus à l'instrument.
On rajoute des notes
aussi.
Et puis, vous avez votre style avec les appoggiatures. Alors, nous avions parlé d'appoggiatures il y a très longtemps, mais c'est les petites notes qu'on rajoute entre les notes.
Au lieu de faire...
Et qui est assez spécifique du musicien, c'est-à-dire que en général, si on vous entend, Xavier Vidal, et bien je sais pas qui joue du violon, je me dis ah là ça a l'air d'être Xavier Vidal ou Basile Brémond ou Camille Rebaud ou Guillaume Schilling, des gens qu'on a déjà invités ou Yumi Bazoge. Voilà, on a nos petits trucs, notre petite
ou langage. Mathilde Lacaze
aussi, merci. j'en ai piqué beaucoup à vous, hein, d'ailleurs. Vu que j'aimerais bien que donc là vous avez joué une bourrée et puis une scottish. Est-ce que vous auriez un autre morceau à nous présenter qui soit quelque chose que vous auriez composé?
Composé. Oula.
Ou pas.
Alors, je vais jouer la valse du Luzer. C'est un hommage à quelqu'un qui était assez brillant et malin. C'était un maquignon dans les foires. Et on l'appelait le Luzer, ça veut dire le lézard, parce qu'il n'arrivait jamais à l'embobiner vraiment. C'était lui qui embobinait les autres.
La valse du lézard
ouais.
du
Luzer.
Luzer. Alors là, on a entendu, hein, c'était très clair que vous m'avez dit on double. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait ambiance bal ou ambiance bœuf, je sais pas trop.
La troisième phrase. Quand on double la troisième phrase, c'est que c'est la fin de la danse.
Donc déjà, il y avait trois phrases à cette valse. Ouais. Donc qui c'est qui a, c'est une valse de votre composition?
Ouais, c'est comme ça, ça m'est venu. Comme ça, j'ai pensé à cette figure, ce gars-là.
Qui arrivait jamais à
être. Je vais faire un hommage, faire une valse hommage à ce personnage.
Alors, il était. Du coup, c'était.
Mais ça fait un côté un peu. C'est une valse qui fait un peu. Se permettre ça aussi, c'est un peu des références à d'autres cultures. La troisième phrase, ça fait un peu sud-américain.
Ah, vous avez fait de la musique sud-américaine ?
Non, mais...
Parce que vous avez parlé des musiques d'Amérique lors du dernier podcast, lors de la dernière émission. Je me demandais si vous en aviez fait ou si vous étiez intéressé à ça.
Ah oui, intéressé, oui. Mais j'ai jamais joué vraiment. Non, les gens me disent est-ce que tu as joué de la musique irlandaise ou de la musique des Balkans bon, je connais, ça m'intéresse, mais comme ça, de façon ponctuelle, mais non, j'ai jamais. J'avais assez à faire avec les musiques d'ici.
Donc, votre répertoire, que ce soit au chant, au violon, à l'accordéon, à la cornemuse, à tout ce qui. Voilà, c'est spécifique musique du Quercy et d'Auvergne.
L'Occitanie.
Voilà. Donc,
la grande région Occitanie. Les Pyrénées, ou la Gascogne, le Quercy, un peu l'Auvergne, oui, bien sûr.
Alors, ça tombe bien parce que. Cette région va être diffusée sur toute l'Occitanie, c'est ça, Armand ?
Oui.
Donc, voilà.
C'est grand. Rien que la région Occitanie, c'est grand. Et alors, l'Occitanie culturelle, c'est encore plus grand.
Et puis chaque département, chaque ville, presque chaque famille a sa spécificité.
Oui. Les instruments, dans la tradition populaire, chaque région avait ses instruments. Il y a des instruments très bizarres en Gascogne, très originaux.
C'est quoi les instruments très bizarres ?
La cornemuse de Gascogne, la cornemuse des Landes, les flûtes, tout ça. C'est...
Le toun-toun.
Ouais, je trouve qu'ils ont des trucs super là-bas. Ou les Pyrénées aussi, enfin chaque région. Ça...
Les danses aussi, les sauts.
Ouais, tout.
Moi, j'étais très surprise de rencontrer les sauts et les branles béarnais. Mmh. Alors là, c'était une découverte. Je savais pas du tout qu'il y avait quelque chose qui existait par là et qui est très très populaire là-bas aussi.
Hein. Oui, c'est ça. Non, ils ont des patrimoines. Bon, mais c'est partout. Il y a des patrimoines musicaux, de chansons et tout ça. C'est formidable. Ouais, bien sûr. Après, il y a des la chanson, par exemple. On peut dire aussi les chants. Ils sont pas toujours. On peut pas les considérer spécifiques d'un endroit. C'est adapté sur l'endroit, mais c'est un peu. Des fois, on est surpris. On a les mêmes chansons. Moi, j'avais fait un spectacle avec des Bretons ça s'appelle le chant des rivières. Les chants sur des bateliers, des mariniers, tout ça. Et on a les mêmes chansons dans le Quercy que la vallée de la Vilaine, par exemple.
Oui, j'ai découvert ça. Je connais des chanteurs bretons à Saint-Martin-sur-Oust, hein, donc au sud de la Bretagne, qui chantent un morceau que je vous ai entendu chanter après. Enfin, disons les mêmes paroles, pas sur le même air, mais exactement les...
Ah, mais
je suis née en automne. Ouais. C'est ça. Alors
c'est
ça,
le même fond de chanson. Il y a la chanson traditionnelle française. Quoi. C'est... D'ailleurs, nous, quand on faisait du collectage, des fois, on était surpris. Parce que quand c'était en français, c'était le type même de la chanson traditionnelle. À quoi on reconnaît la chanson traditionnelle ? C'est les formes récurrentes. Si on dit, par exemple, si une chanson, le texte, il dit « La fille va à la fontaine, elle tombe ça, la bague dans la fontaine, le fils du roi passe, il veut récupérer la bague, il se noie. » Bon, on peut dire... Ouais. Ça, c'est thématique extra-traditionnelle. Il n'y a pas plus traditionnel que ça.
Oui, c'est on retrouve ça partout.
C'est donc, mais par contre, quand ils chantaient la même chanson, elle peut être chantée en français. Alors les gens le gardaient comme un trésor, ils chantaient ça en français. Et puis ils parlaient quotidiennement en occitan, ce que les gens disaient le patois. Et la chanson en patois, en occitan, elle évoluait plus vite, parce que les gens s'exprimaient tous les jours, ils changeaient un mot, ils changeaient un truc. Donc ça variait plus. Tandis que la chanson en français, on l'a gardée à l'identique.
Ah d'accord. Et oui, il y a des thèmes qui reviennent comme ça, qui sont un peu emblématiques de la chanson traditionnelle. Ah, ouais, quoi.
C'est comme les contes et tout ça.
Ouais, la bergère, le berger, le ramoneur, tout ça. Voilà. Alors, il nous reste à nouveau 3 minutes, me fait signe Armand.
Exactement.
Est-ce que vous auriez soit un morceau, soit une chanson que vous auriez envie de nous faire partager?
Ouais, on pourrait jouer un morceau. On pourrait jouer... Allez, une mazurka.
Interprété par Xavier et moi-même.
Ça fait plaisir parce qu'on retrouve à l'époque où on jouait ensemble, on reprend et c'est bien.
On reprend, mais c'est là où vous me l'aviez apprise hein, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Première, deuxième voix. Je pense que, alors c'est marrant parce que je pense que j'ai les partitions encore à la maison.
Ah.
Les partitions que vous écriviez.
Ah.
Donc je vous dénonce, attention.
Ah, oula.
Je dénonce Xavier me donnait des partitions que je ne lisais pas.
Ah, mais bravo.
Non, mais c'était comme un aide-mémoire. Mais je trouvais que c'est intéressant d'avoir la partition, le solfège comme aide-mémoire.
Ah, oui, donc c'était très bien. Puis il y a une époque où j'ai voulu les lire, mais on rentrait à la maison avec. À l'époque, c'était des cassettes. Est-ce que vous connaissiez les cassettes, Armand?
Oui.
Voilà, les cassettes avec la bande magnétique et tout, voilà. Donc, on avait notre enregistreur. Xavier en revenait son enregistreur. Et nous avions l'enregistrement des morceaux et la partition. Et j'ai retrouvé cette cassette il n'y a pas longtemps.
Mais... Je suis né avant les années 2000, quand même.
Ah, d'accord. Ah. C'est vrai, j'avais oublié. En tout cas, c'était... voilà, aujourd'hui, on a le portable, ce qui est bien pratique, quand même, pour pouvoir enregistrer des morceaux. Surtout quand on veut les enregistrer à la volée dans une session ou au milieu de la rue ou n'importe où, parce qu'on avait quelque chose de enfin une cassette, ça avait un temps fini. Bien, nous arrivions à la fin de cette émission. Merci beaucoup Xavier Ludal d'être venu.
Merci Mathilde.
Ça a été dur de trouver un moment ensemble, mais je suis ravie que ce soit arrivé dans les studios de Radio Présence Figeac. Et merci Armand pour toute la technique entre les voix, les violons, les rires, etc.
Et enlever les gaffes.
Et les gaffes, mais il les a coupées.
Normalement.
J'espère. À bientôt.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.